marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Étrange revirement de l'histoire, 40 ans après, Klaus Barbie a dormi au fort militaire de Montluc à Lyon.
La prison de Montluc est aujourd'hui avant tout une prison pour femmes et pour quelques militaires en préventive. L'ensemble est composé de plusieurs bâtiments clos derrière de hauts murs qui longent la voie de chemin de fer du TGV à deux pas du quartier des Brotteaux. C'est derrière ces murs, dans un bâtiment gris, que siégeait avant sa dissolution en juillet 82 le tribunal permanent militaire. Au centre, des bâtiments sur trois étages, une cour en U et puis de l'autre côté, des cellules avec sans doute celles qu'occupe Klaus Barbie.
Le bref séjour de Barbie en 1983 dans le lieu où il avait enfermé Jean Moulin fut un moment d'exception dans l'ultime période de Montluc. La prison était promise à une fermeture proche. Celle-ci intervint pour l'aile des hommes en 1997, pour le secteur des femmes en 2009. S'est posée alors la question du destin du site. France Domaine aurait voulu le valoriser, entendez, vendre. L'université Lyon 3, qui a fini par s'appeler Jean Moulin, l'utiliser pour ses étudiants. Le préfet de l'époque préféra tendre l'oreille à l'association des rescapés qui rappelait ce qui s'était passé ici en 1943-1944. La prison était sous le contrôle des Allemands. Plus de 9000 personnes y furent enfermées. Deux seulement purent s'en évader. Ce sont les personnages du film de Bresson, un condamné à mort. Les autres, à commencer par les Juifs, n'avaient pas d'autre perspective que l'exécution ou la déportation. Intervint finalement le classement de Montluc et, dès 2010, le début de son ouverture au public. Mais la sédimentation des histoires en cet endroit est telle qu'il est impossible de polariser exclusivement l'attention sur la seule période 43-44. Depuis l'ouverture, en 1921, on séjournait ici, outre les victimes de la section spéciale de Vichy et des nazis, des collaborateurs entre 45 et 54, des détenus de droit commun, hommes et femmes, et assez constamment des insoumis envoyés par les tribunaux militaires. Enfin, 75 condamnés à mort algériens entre 58 et 71, dont 11 furent exécutés. On a même vu arriver une équipe de télé chinoise qui venait enquêter sur le passage dès 1921 de Zhuan Lan, qui faisait partie des étudiants ouvriers chinois amenés en France pour les besoins de la Première Guerre. Il n'y a guère en France, parmi les lieux pénitentiaires, que l'abbaye prison de Clairvaux qui nécessite une telle variété de points de vue pour être visitée et un peu comprise. Dans le film de Bresson, le personnage principal voit surgir dans sa cellule un petit bonhomme informe qui amenait jusque-là une vie aveugle. « Est-ce que je savais ?» lui dit le petit bonhomme. Et le personnage principal répond « Il fallait savoir ». C'est l'intention de l'exposition Trace, ouverte actuellement au Mémorial Prison de Montluc. « Il faut savoir ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour à vous Antoine Grande.
Bonjour.
Alors vous êtes le responsable de trois très hauts lieux de mémoire, ceux qui sont situés dans la région parisienne, avant de revenir à vos origines lyonnaises et au travail que vous avez fait à Montluc. Dites-nous un mot de ces trois très hauts lieux de mémoire dans la région parisienne, très divers, mais séparés géographiquement les uns
mais
des autres.
Mais séparés géographiquement, c'est-à-dire que ce sont trois des 9 hauts lieux que gère l'Office national des anciens combattants, ministère de la Défense. Ces trois hauts lieux sont pour Paris le mémorial du Mont-Valérien, dans ses deux composantes, mémorial de la France combattante, parcours des fusillés. Le mémorial des martyrs, la déportation, ce superbe monument qui est à la pointe de l'île de la Cité.
On va dire que c'est le plus beau lieu mémorial de France, peut-être.
C'est un des lieux qui me touche le plus, c'est une architecture absolument fabuleuse. Et proche d'ici, proche de la maison de la radio, le monument, le mémorial du Quai Branly, consacré aux morts pour la France et victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats de Tunisie et du Maroc.
Alors très lié à la Corrèze, très lié à Lyon, vous avez donc travaillé au mémorial de Montluc, qui est présentement dirigé par Philippe Rivet. Et vous vouliez, avant qu'on suive l'exposition Trace, en prenant des moments de l'histoire de Montluc et en voyant comment ils sont traités, rappeler ce qui avait été fait selon le projet de Rudy Bauer. Il y avait été disposé des plaquettes de bois avec des questions sur chacune des plaquettes qui rappelaient les moments de la prison.
Exactement. Les collègues qui travaillent à la prison de Montluc et sont à l'origine de cette exposition de traces avaient déjà accueilli en 2016 une résidence artistique de Rudy et Vera Bohr qui avait disséminé sur invitation du mémorial de Bernard Bolz, qui travaille sur les prisons, en particulier Montluc, des questionnements qui, sur encheminement, car voir un lieu de mémoire, c'est cheminer et s'interroger en chemin, des questions qui, non contextualisées, plongeaient le visiteur dans toutes ces strates que vous avez énumérées, sans en amener une réponse ferme et définitive, mais pour l'amener à le questionner in situ et auprès des guides.
Enfin, j'ai énuméré, mais il faut complexifier. Donc, l'ouverture, 21. C'est pas une prison qui, avant 1939, est assurée d'une carrière d'avenir.
Ouais, elle est même assurée de l'inverse, puisque juste avant guerre, le ministère de la Guerre cherche à s'en défaire pour le vendre à Edouard Herriot, qui veut construire des logements à un loyer modéré, qui seront, après guerre, construits juste à côté de la prison.
Le maire de Lyon.
Cette prison, elle répond à un besoin, celui de la Première Guerre mondiale, l'armée se rend compte que, en période de mobilisation générale, les édifices de la justice militaire sont insuffisants. Donc dans les grandes régions militaires, on établit avant même les prisons, et ça c'est important pour comprendre l'évolution de la prison à travers l'histoire, un tribunal militaire. Parce que tout Montluc, toutes ces successions vont venir des différents usages qui ont été faits du tribunal militaire. Donc en 1921 est achevée la construction d'une prison dont le projet avait été lancé en 1914 dans le contexte de la Première Guerre mondiale.
Et si elle est désaffectée pendant quelques années, en 1932-1939, la déclaration de guerre de septembre 1939 l'assure d'un rôle, le rôle militaire sur lequel vous insistiez, et donc elle est rouverte en décembre 1939 pour les insoumis, déserteurs, soldats coupables de délits. Il n'y en a pas un pour 100, ils se tiennent bien bras dessus, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Maurice Joyeux, nommé par Léo Ferré.
La feuille de mobilisation, Joyeux n'y répondra pas, ce n'est pas sa guerre. Arrêté, traduit devant le tribunal militaire, condamné à 4 ans de prison pour insoumission, il sera transféré à la prison militaire de Montluc. Il organise et réussit la mutinerie de Montluc, et le 1er janvier 1941...
J'ai réussi à me permettre à la cantine, avec mes copains. Et à la cantine, on avait un fût de pinard de 400 litres. Tous les mecs qui venaient chercher à la cantine, on leur filait une gamelle de pinard. À midi, on aurait filé une allumette dans de la benzine, ça aurait sauté. Alors j'ai pris les gardiens, je les ai mis en prison, j'ai ouvert la porte et puis je suis parti.
Dénoncé puis repris, il y retournera 8 mois plus tard. Condamné par défaut à 20 ans de réclusion par le tribunal militaire, il en sortira en 1945.
Alors quand je suis arrivé un an après, les gars que j'avais enfermés en prison, les gars, ils étaient toujours là et ils m'attendaient. Ça n'a pas été rigolo, quoi.
Ils ont été assez brutaux.
Oui, mais j'ai une bonne santé.
Maurice Joyeux chez Antoine Spire, France Culture. Quand il est venu parler à Sancier en juin 1968, ça a été la fête, parce que c'est quand même une voix, Joyeux.
C'est une voix, et je vais vous lire un extrait qui, je pense, décrit bien ce qu'est la prison militaire pour Maurice Joyeux. Juste avant ça, dans l'énumération que vous faisiez de qui est à Montluc jusqu'à la défaite de juin 40, et puis à partir de ce moment-là, il y a une autre population qui est importante et qui permet de comprendre le rôle de la prison et du tribunal militaire, ce sont les communistes. C'est-à-dire que depuis l'interdiction du Parti communiste français, les communistes sont internés à Montluc.
Alors ça devait être amusant, les communistes et Maurice Joyeux ensemble.
Il évoque une secte dans le récit qui fait d'une mutinerie, et ce dont il parle quand il dit qu'il a mis la main sur la réserve d'alcool, c'est-à-dire qu'il parvient à en fait saouler d'alcool les détenus et les gardiens pour provoquer une insurrection. Et Maurice Joyeux s'échappe. Tout ceci est corroboré par le PV de gendarmerie, sera repris au printemps 1942. La majorité des co-détenus qui sortent avec lui sont récupérés dans les fossés alentour. Mais à ce moment-là, Maurice Joyeux, ceux qu'il décrit autour de lui, ne sont plus seulement ce qu'il décrit comme le déversoir où venaient se déverser tous les irréguliers en coquetterie avec l'autorité militaire. Ce n'est plus uniquement ça, puisque à ses côtés, en détention à Montluc, se trouvent les premiers résistants. Les premiers résistants qui sont là, jugés dans le cadre d'une juridiction traditionnelle, militaire, pour atteinte à la sûreté de l'État menée antinationale en raison d'une loi qui vient de 1849 disant qu'en période d'état d'urgence, ceux qui ont la charge de la répression des menées antinationales, ce sont les tribunaux militaires.
Alors quand la France, en juin 40, a éclaté un territoire au statut divers, il n'y a plus vraiment de capitale, c'est pas Vichy qui peut le devenir, vraiment. Il y a la Côte d'Azur, il y a la côte méditerranéenne, il y a Marseille, et il y a Lyon qui va jouer un rôle de plus en plus important. Les résistants, ils sont nombreux, mais ces résistants sont traités dans un premier temps par la section spéciale à partir d'août 1941, puis ils vont tomber carrément sous contrôle allemand. La section spéciale, qu'est-ce que c'était? Et il y en avait une à Lyon?
Alors, avant même la section spéciale qui arrive au mois d'août 1941, on sait que la création des sections spéciales du 22 août est antidatée pour que ne pas montrer que c'est une répercussion à l'attentat du métro Barbès. Ces sections spéciales, elles sont placées en zone nord, près les cours d'appel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'armée d'armistice, elle est dissoute. Sauf qu'en zone sud, l'armée d'armistice est présente, donc les tribunaux militaires demeurent. Et comme ils avaient la charge de cette répression des menées antinationales, de manière extrêmement logique, les sections spéciales sont dans un premier temps placées près des tribunaux militaires, ce qui explique l'arrivée des résistants à Montluc.
Mais Vichy perd le contrôle de la prison à partir de février 1943. Il y a eu occupation de la zone dite libre. Le commandant de Vigny est condamné à mort en août 1943. Son aventure inspirera au cinéma le chef-d'œuvre de Robert Bresson, un condamné à mort. S'est échappé. Bresson s'est aussi souvenu de sa propre évasion d'Allemagne peu auparavant. Dans l'exposition Trace, on voit souvent des tablettes, comme il y en avait dans la cellule du commandant de Vigny. Qu'est-ce que c'était ces tablettes et pourquoi il faut les conserver?
Alors, ces tablettes font partie du mobilier des cellules, là où on pose quelques effets, et qui, à ces tablettes, vont permettre au commandant de Vigny de se hisser jusqu'à un fenestron.
Les séjours que je fis à la fenêtre furent de plus en plus longs. Je pus observer la cour, les murs et le préau de l'infirmerie. Inconsciemment, je me préparais. Je savais qu'on fusillait dans l'enceinte même de la prison. Une idée folle me traversa la tête.
Il veut s'évader, il veut en convaincre le mouton qu'on a mis dans sa cellule et qu'il va retourner, ou plutôt élever, transformer. À propos d'élévation, c'est par le toit. Et alors, dans l'exposition Trace, la verrière et les trappes de la verrière sont bien mises en valeur.
Demeure ce puits de lumière qui servait à éclairer les couloirs cellulaires. Et c'est effectivement en limant, en coupant de manière érosive un petit peu chaque soir, dès qu'il le pouvait, les lattes, c'est extrêmement bien décrit et dans le film et dans le récit de Vigny lui-même, les linteaux de la porte de sa cellule qu'il va pouvoir sortir. Il tisse une corde à partir de son matelas, des tissus qu'il trouve, laquelle corde est conservée aujourd'hui au Musée de l'Ordre de la Libération encore, donc c'est encore une trace qui existe. Et naturellement, dans l'exposition, tout ceci est mis en perspective in situ, et des visites sont proposées autour de cette évasion de Vigny en lien avec ce magnifique film de Robert Bresson.
C'est à la même époque que Jean Moulin se retrouve à Montluc. La cellule est reconstituée, visitable?
Alors la cellule n'est pas reconstituée, la cellule est visitable, elle est mise en perspective par le parcours de Jean Moulin. Jean Moulin, naturellement, dans les raisons du classement de la prison, est une des figures qui amène à cette préoccupation des pouvoirs publics en disant cette prison, on ne peut pas la laisser être détruite, disparaître. Il y a Jean Moulin, il y a les enfants d'Izieux. Jean Moulin, le soir de son arrestation, le 21 juin 1943, avec ses camarades de résistance, est emmené à la prison de Montluc. Il y est longuement interné, interrogé durant plusieurs jours, puis transféré à Paris. On sait la constatation de sa mort en gare de Metz au mois de juillet, quelques jours plus tard. Avec Jean Moulin, c'est une forme de décapitation de cette résistance lyonnaise dont vous parliez. Lyon est souvent présentée comme la capitale de la résistance, puisque nombre d'intellectuels, de responsables politiques étaient en zone sud, allés se réfugier pour monter cette contestation à travers les mouvements.
Et Lyon est devenue une nasse au bout d'un moment.
Et Lyon est devenue une nasse pour les résistants, ainsi que pour les juifs. Car si Lyon est refuge des populations résistantes, elle est aussi refuge de populations juives, ce qui va expliquer le rôle de Montluc.
Alors un mot sur le procès Barbie, c'est pas au moment de son procès, mais au moment de son retour en France, qu'il séjourne très brièvement à la prison de Montluc, c'est très symbolique.
C'est extrêmement symbolique.
Le directeur de l'époque d'ailleurs est furieux parce que l'arrivée de Barbie met en cause toute sa politique et il démissionne.
Ça désorganise toute la prison. Ouais. C'est-à-dire que Klaus Barbie sort de sa cellule pour fumer une cigarette, il faut que tous les détenus rentrent dans leur cellule. Et lorsqu'il était venu visiter le mémorial, Robert Badinter nous expliquait à quel point ça avait été de sa part une demande forte, lorsqu'on lui a dit, on a Barbie, de dire ce soir il ira à Montluc.
Le procès de Barbie, il n'est pas logé à Montluc pendant son procès en 1987. On attendait, dites-vous, le bourreau de Jean Moulin, mais on a eu aussi l'assassin des enfants d'Izieux.
Avec le procès Barbie, les témoignages, les récits ont alors place publique. Non que, comme on l'entend parfois, il n'y ait pas eu de témoignages avant cette période-là, sur la déportation, sur les persécutions. Mais au moment du procès Barbie, outre l'inculpation pour crime contre l'humanité, avec cette dissociation que Frossard fera entre crime de guerre, crime contre l'humanité... Avec le procès Barbie, c'est aussi la parole des victimes des persécutions antisémites, ceux-là même qui étaient internés à Montluc en divers espaces.
Alors Frossard, vous avez cité son nom, André Frossard, arrêté en décembre 1943, résistant, catholique, et il a aussi le tort d'avoir une grand-mère juive, et il va être interné dans la baraque aux Juifs.
On vivait à 150 ou près de 200 dans une baraque prévue pour 70 ou 80 personnes au maximum, sur des chalits, on aurait dit une péniche armée du salut mise en désordre par un coup de roulis. C'était assez désolant comme spectacle. Arrivaient ici des gens qui avaient été passés à la baignoire, qui arrivaient grelottants, il fallait des heures pour les réchauffer en les frictionnant. D'autres qui arrivaient avec des ébrures, des marbrures pleines d'eau et les fesses. D'autres, les mains brûlées, qui étaient arrivés avec des cloques énormes dans les mains. C'était le vivier à otage. Comprenez ? Il venait avec l'épuisette tempête. Une douzaine ou une quinzaine de poissons, et c'était fini. Alors ça, c'était le plus dur à supporter. On tue quelqu'un le jour où on lui apprend qu'il va mourir.
Le très beau livre de Frossard, La Maison des Otages, est paru dès 1948. Ça a été un des éléments constitutifs du début de la mémoire d'après-guerre de Montluc. Et il disait souvent, Frossard, mais alors, notre baraque, là, c'est dommage qu'il n'y ait plus notre baraque. Parce que en plus, la baraque, c'est le symbole de tous les internements, de tous les camps de concentration, et Dieu sait s'il y en a eu, du XXe siècle. Alors la baraque, là, actuellement.
Aujourd'hui, la baraque sur le site est symbolisée par son emprise au sol, par la présence de photographies qui la montrent, par les témoignages, notamment des extraits d'André Frossard. Ce qui est important avec la baraque aux Juifs de Montluc, c'est ce dont elle est le nom. C'est-à-dire qu'elle n'est pas l'unique espace d'internement des Juifs dans la prison. C'est l'endroit d'internement des hommes seuls. Les femmes seules sont au rez-de-chaussée, en cellule. À ce moment-là, la surpopulation est totale. 1300 personnes dans une prison prévue pour 180 personnes. Les femmes avec enfants dans les réfectoires de la prison. Les enfants étaient majoritairement enfermés à l'hôpital de l'Anticaille à Lyon. Mais cette baraque, elle dit le nom du projet nazi à partir de Montluc. C'est-à-dire que, en termes de compréhension globale, cette baraque... la prison Montluc dans son ensemble, que cela soit pour le souvenir des populations juives, que ce soit pour le souvenir de la résistance, montre comment, à la porte de chez soi, à ce moment-là, débutait cette machine à broyer nazi qui allait envoyer devant les pelotons et dans les camps.
Mais je sais, Antoine Grande, que vous n'aimez pas le mot reconstitution, mais on pourrait la reconstituer quand même.
Alors, Il y a un projet cher notamment à l'association des fils et filles des déportés juifs de France, de Serge Klarsfeld, qui aux côtés de l'association des rescapés de Montluc avait pesé pour la sauvegarde de la prison, d'une reconstitution. Il y a aussi des propositions faites par des artistes pour la suggérer, pour la dire autrement, des projets architecturaux sur reconstruit-on à l'identique, fait-on un espace d'interprétation, de contextualisation. Tout ça, actuellement, l'équipe est en train de plancher dessus pour voir quelle en est la forme la plus pertinente.
À partir de la fin 43, quand est interné Frossard, la situation devient de plus en plus difficile. Lyon bombardé, l'étranglement des entreprises, les difficultés de ravitaillement. La libération de la ville va se faire en deux temps. La prison libérée dès le 24 août, alors que la libération totale de Lyon, c'est seulement le 3 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs à Lyon, dans la négociation avec les Allemands,
c'est là qu'on
la
voit,
confrontation en tout cas.
C'est là qu'on voit à quel point Montluc est un fabuleux point d'observation, une vigie pour comprendre l'évolution de la répression et de la Seconde Guerre mondiale. À partir du printemps et l'été 44, les Allemands sortent de Montluc nombre d'internés, qu'ils soient juifs, qu'ils soient résistants, qu'ils soient otages, qu'ils soient raflés pour les massacrer aux alentours de Lyon. Marc Bloch sera lui-même exécuté à Saint-Didier-de-Formans, Sébron, c'est Saint-Genis-Laval. Tal Brutmann travaille beaucoup dessus, il fait une conférence demain là-dessus à Lyon justement avec les collègues.
Et donc le commissaire de la République, il farge.
Le commissaire de la République, face à ces massacres, adresse un ultimatum en disant aux Allemands, nous avons des prisonniers de guerre allemands en Haute-Savoie, si vous continuez à exécuter, nous les passons par les armes. Massacre de Saint-Genis-Laval, en représailles. Des soldats allemands sont fusillés en Haute-Savoie. Et c'est ainsi qu'est acquise, avant même la libération de la ville, la libération de Montluc.
Montluc qui va accueillir ensuite les collaborateurs, documents des actualités cinématographiques, avec un ton qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Septembre 44.
Toujours à Lyon, la prison militaire du fort de Montluc, ensanglantée par la Gestapo, a changé de pensionnaire. On est pur et on arrête. Les prisonniers d'hier sont aujourd'hui devenus les gardiens de leurs geôliers. Les hommes de la Gestapo et les miliciens connaissent maintenant l'autre côté des portes de prison. Ici, on a mis à l'abri les grands personnages. L'ancien maire de Villeurbanne, Monsieur Vissot, fabricant de lampes, Monsieur le procureur de l'État français. À l'infirmerie, Monsieur Berlier des automobiles repose sur un matelas qui n'est peut-être pas pneumatique.
900 collaborateurs ou assimilés, il y en aura jusqu'en 1954. On conserve dans l'exposition Trace, avec beaucoup de soin, et dans l'ensemble de Montluc, les graffitis. Il y a une porte qui voit une inscription « Max Payot ». Vous vous souvenez de Max Payot, cet auxiliaire des Allemands ?
On est face à ces parcours de collaborateurs, auxiliaires des Allemands, qui s'échappe, qui est repris. Max Payot, si je ne m'abuse, sera assassiné.
Dans une autre prison de Lyon,
dans sa cellule,
à la fin
Saint-Paul,
44, ouais.
Vers lesquels vont être dirigés les collaborateurs, pour certains d'entre eux, après leur jugement. Il montre bien, il illustre parfaitement cette superposition des strates, cette permanence de l'enfermement. Et à ce moment-là, une chose étonnante, celui qui est le directeur de la prison était celui-là même qui en était le directeur sous Vichy. Et donc, la boucle est bouclée à cet endroit autour de ses collaborateurs.
Enfin, on garde leur nom à Montluc.
Tout à fait.
Quittant ma maison, ma famille, un beau jour, je fus arrêté pour une simple paix. Dans une prison, je fus jeté, et depuis ce temps, je chante gaiement. J'aime la prison, ses camelles, sa tinette et tout le barda. J'aime surtout le chien fidèle, le gardien qui m'accompagna.
On était à Lyon avec vous, Antoine Grande, depuis le début de cette émission, un pas de côté à Rennes, qui est une grande maison de prison pour les femmes. Ce sont des résistantes rennaises qui ont chanté ainsi sur l'air de Théodore Botrel, de la Paimpolaise, les bienfaits des tinettes dans les prisons. C'est devenu une prison de femmes ?
À partir de la guerre d'Algérie, où sont internées des femmes de manière officielle, si vous voulez, à Montluc. Cela devient la maison d'arrêt et la prison pour femmes de Lyon. Et des traces extrêmement émouvantes sont conservées aujourd'hui encore, hein, mises en avant dans cette exposition. Je pense à cette nurserie où les femmes pouvaient, en dehors de cellules, avoir des temps avec leurs enfants, venant les voir la journée avec des dessins très enfantins. Et cette confrontation entre cette douceur enfantine et la violence dans le lieu d'enfermement et de répression crée véritablement un effet saisissant à cet endroit.
Parmi les premières femmes, celles qui militaient pour l'indépendance de l'Algérie, et de 58 à 61, des militants algériens eux-mêmes, du FLN mais aussi du MNA, jugés par le tribunal permanent des forces armées de Lyon, ça fait 75 personnes. Pendant cette période, 11 seront exécuté. C'est la lecture d'un témoignage de Maître Lafuong, avocat d'un de ces Algériens.
Le 16 mars 1960, le téléphone a sonné chez moi très tard dans la soirée. Mon interlocuteur m'apprenait que De Gaulle n'avait pas signé la grâce et que l'exécution aurait lieu le lendemain matin à 5 heures. On m'informait au tout dernier moment pour que je ne puisse pas prévenir mon client. Je ne sais plus comment j'ai dormi. Au petit matin, le quartier autour du Fort Montluc était en état de siège et bouclé par les CRS. Un cortège s'est formé et nous nous sommes mis en marche vers le quartier des condamnés à mort. Le bruit des portes qui s'ouvraient a réveillé les détenus. Ils ont compris et se sont mis à crier « Vive l'Algérie indépendante !» Puis ils ont entonné des chants. Ils ne savaient pas encore lequel d'entre eux on venait chercher. Les clés ont tourné dans la porte de la cellule d'Abdallah Kabouch.
Abdallah Kabouch qui avait tué à Lyon un autre Algérien, accusé de traîtrise par le FLN, mais qui était un ancien combattant d'Indochine.
Ce témoignage est une trace qui a été amenée dans la prison, notamment par une équipe de sociologues, Marie-Thérèse Tétu, Alain Bandiguet, à l'intérieur, pour amener cette question de l'internement des Algériens. À Montluc est le lieu, vous l'avez dit, d'internement des femmes sympathisantes, qui hébergeaient, qui portaient des valises, qui accompagnaient, qui étaient compagnes d'eux, et aussi des condamnés à mort, internés, jugés par le TPFA de Lyon, Tribunal Permanent des Forces Armées. Travaux de Marc André, qui a travaillé justement sur ces femmes algériennes, femmes dévoilées à Lyon, nous montrent que le TPFA de Lyon juge 1075 personnes et en condamne à mort 113. 13 sont guillotinées, 11 à Montluc, 2 à Dijon. Montluc est alors la prison à nouveau de ceux qui sont accusés de ces menées antinationales, d'atteinte à la sûreté de l'État, et devient en plus de prison pour femmes la prison des condamnés à mort pour
lui. Alors les Algériens, il y en a un qui a été interné là et qui est devenu sénateur, disent mais alors est-ce qu'on fait une place suffisante? Et ils répètent d'ailleurs leur mécontentement chaque année.
On est dans l'usage d'un lieu d'histoire par la mémoire. L'État a classé ce site au titre de son utilisation par les nazis pour l'internement des juifs, l'internement des résistants. Le mémorial est consacré à ces thématiques-là. Mais on voit bien à travers cette exposition qui est proposée sur site, à travers les activités, qu'il est possible d'exprimer, faire parler ce lieu-là de façon extrêmement diverse et mettre en avant ce palimpsest, cette succession, cette addition.
Alors on recommande la visite de l'exposition au Mémorial Prison, Antoine Grande, et puis aussi la lecture d'un livre assez considérable de Bernard Bols qui s'intitule « Prison de Lyon ». Est conservé à Montluc un dessin de 1941 qui reprend une citation d'Oscar Wilde, lui-même emprisonné, c'était dans De Profundis, « Pour nous, il n'y a qu'une saison, celle du chagrin ». Il faut quand même mettre la visite de Montluc dans cette perspective de réflexion sur la prison d'aujourd'hui.
Exactement, et ce dessin de Franck Sequestra que vous citez donne une sorte de cohérence au lieu, aux différents internements qui s'y sont succédés. Alors selon l'état de droit, hors d'état de droit, hors juridiction pour la période nazie par exemple. Ce travail de mise en perspective interroge naturellement aujourd'hui sur l'internement, sur l'emprisonnement, sur les conditions de détention. Ce que vous citiez l'ouvrage de Bernard Bols, il continue à faire à travers son site Prison Insider pour dans une étude comparative mondiale cette fois-ci, et plus seulement historique, chronologique, a montré l'évolution de ces considérations. Et sur le site de Montluc aujourd'hui, à travers cette exposition Trace et dans les témoignages qui sont fréquemment organisés, l'ensemble de ces strates ont leur place.
Merci à vous, Antoine Grande. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco, avec à la technique Pierre Faucillon et la réalisation C'était Étienne Bertin.